21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire comme chaque mercredi depuis novembre 2010 sur les ondes de Radion. Bienvenue donc à bord et merci de nous rejoindre. Nous avions déjà eu le plaisir de la recevoir devant notre micro en mai dernier pour un essai paru aux éditions de la Table Ronde, un essai intitulé « Impatience de l'absolu face au genre inhumain ». Jacqueline Kellen, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous accueille une fois de plus sur les banquettes
Mais
de Wagon Livre.
Mais je suis ravie.
Avec un plaisir renouvelé pour un nouvel ouvrage, un essai, toujours, qui s'adresse particulièrement aux chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Vous mettez quand même à mal le clergé. Moi, j'ai eu l'impression quand même que le clergé prenait quelques petits coups de bâton.
Beaucoup plus que les fidèles. Ils sont mis en question, je dirais. Mais ils sont mis en question plus que les fidèles chrétiens. Oui.
Je le disais en plaisanterie, si vous n'avez pas été excommunié avec ce livre-là, chez François Bourin, éditeur, vous allez être excommunié, Jacques.
Ce serait de la bonne publicité, mais je pense que le pape actuel ou le Vatican a pour l'instant d'autres chats à fouetter ou d'autres événements à surveiller ou à organiser.
L'ouvrage dont il va être essentiellement question ce soir, qui est très récent, qui date de ce printemps 2013,
tout à fait, oui,
a pour titre « Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux » et effectivement une injonction, parce que vous faites le constat avec ce livre, Jacqueline Kellen, que le monde ecclésiastique, le clergé, a oublié finalement la parole originelle du Christ, me semble-t-il. C'est la thèse,
c'est exactement le fil conducteur, et j'espère que c'est l'échelle qui mène au ciel, c'est tout à fait cela. Oui, oui.
Alors, je me permets quand même de vous présenter un petit peu à celles et ceux qui vous auraient déjà oublié. C'est, parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux, c'est votre presque 30e livre,
oui,
si j'ai bien compté. Vous avez commencé avec un premier ouvrage en 1982,
oui,
qui avait pour titre Marie-Madeleine, un amour infini. C'était chez Albin Michel. Alors, je vais en citer d'autres, hein, Les femmes de la Bible, La fin de l'âme, sous-titré Une approche spirituelle de l'anorexie, Les sept visages de Marie-Madeleine, plus proche de nous dans le temps, Lettre d'une amoureuse à l'adresse du pape. Il vous a d'ailleurs toujours pas répondu.
Non. Et puis le pape actuel, je pense, encore une fois, la question de la femme n'est pas non plus urgente.
Et nous pouvons vous lire, chère Jacqueline Kellen, chez des éditeurs prestigieux, hein, je l'ai dit, Albin Michel, Le Seuil, La Table Ronde, Des Clés de Brouwer.
Oui. Oui, oui, le bréviaire du colimaçon qui a été même réimprimé parce qu'on ne le trouvait plus, chez Robert Laffont aussi. Oui, j'ai plusieurs éditeurs parce que je suis indépendante et selon les thèmes, je m'adresse à tel ou tel éditeur.
Alors, vous avez une formation universitaire.
Lettres classiques.
Lettres classiques.
Latin grec, ancien français. Ça ne se fait plus guère, mais ça donne une bonne, non seulement de bonnes bases, mais surtout ça relie à tout notre héritage.
Et vous avez toujours revisiter les mythes.
Exactement.
Antiques, la sagesse de la philosophie antique. Vous avez été productrice d'émissions à France Culture.
Oui, pendant 20 ans.
Moi, quand même, de saluer, oui. je m'incline respectueusement. Alors, parlons justement de ce « Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux », titre de votre dernier essai. Un ouvrage dans lequel, vous le dites, ce n'est pas une religion que je défends, c'est la liberté et la grandeur de l'être humain. Et vous faites le constat que vous faisiez déjà dans Impatience de l'absolu, constat selon lequel nous ne nous tournons pas suffisamment vers la verticalité de l'existence. Regardons donc le ciel, Jacqueline Kellen.
Oui, il s'agit toujours d'élargir sa vision, d'élargir son champ de conscience, et ça passe par le questionnement. À notre époque, on a envie d'avoir des réponses, des explications définitives, des modes d'emploi, comment ça fonctionne, comment ça marche, on gère, enfin toutes ces choses que je dénonçais déjà en effet dans Impatience de l'absolu. Et là, ce qui est assez affligeant à mon sens, mais ce que j'écris n'est pas un témoignage personnel. Je me fais l'écho de beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui vivent, que ce soit à Paris, en province, ou même en Suisse et en Belgique, puisque je connais aussi, je fréquente les milieux protestants en Suisse, et qui me disent, mais ça devient triste et affligeant, parce que même dans des lieux dits de culte ou de spiritualité, on nous parle encore de sujets sociaux, politiques, économiques. Ce n'est pas le propos. Donc la question, c'est toujours... pourquoi rapetisse-t-on de plus en plus l'être humain à, non pas des dimensions, mais un cadre de vie qui devient une cage, un cadre de vie où seul l'existentiel, au sens les problèmes, bien sûr, ils existent, les problèmes matériels, économiques, familiaux, conjugaux, sociaux, etc., on est réduit à ça. Donc, est-ce que l'être humain n'est qu'un être temporel, historique, donc mortel et après terminé, et donc pendant toute son existence, il va se poser la question de comment être heureux, comment guérir, etc., et puis la mort arrivera, comme pour nous tous, ou alors est-ce qu'il y a, comme depuis que l'être humain existe et sur Terre, et même depuis les temps préhistoriques, on sait qu'il y a eu toujours cette... ce sens de la recherche, cette soif d'autre chose, d'élargir, de franchir les limites. Toutes les civilisations sont nées justement de cette aspiration de l'être humain à d'autres mondes, à un monde supérieur, à une immensité. Toutes les premières civilisations reposent, toutes les grandes civilisations, il y a civilisation s'il y a religion, philosophie et bien sûr art et technique.
Mais même dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, est-ce que dans les sphères les plus modestes, on est aussi très proche de cette quête spirituelle, même dans les milieux modestes ?
Mais oui, oui.
Ce n'est pas réservé à une élite.
Oui. Bien sûr, alors nous sommes ici à Vézelay. Vous pensez que tous les bâtisseurs de cathédrales, certes, il y avait ceux qui savaient, les bâtisseurs, ceux qui, les architectes, les tailleurs de pierre, mais il y a toutes sortes, enfin la multitude des anonymes pour construire les cathédrales, les églises et les basiliques, qui étaient animés par un élan vertical, qui avait un sens supérieur de l'existence et qui, par ailleurs, bon, était paysan, laboureur, éleveur et puis, ou tâcheron, hein, les vilains, comme on les appelait, les paysans ou les païens. Bon, donc tous les êtres, tout ce peuple était transcendé, c'est le grand terme, transcendé par une réalité supérieure. Or, de nos jours, et ça remonte maintenant au milieu du 19e siècle, nous sommes encore les héritiers, malheureux, de toute cette entreprise de positivisme, marxisme, matérialisme, etc., où seule la science est la vérité. Donc, on évacue tout le reste qui n'est pas science. On évacue la philosophie au sens qu'est de la sagesse, on évacue la spiritualité parce qu'apparemment rien n'existe en dehors de ce monde concret. Donc c'est vraiment un rapetissement des consciences et surtout un étouffement d'un désir d'infini qui, me semble-t-il, est au cœur de l'être humain. Toutes les conquêtes, enfin de la pensée, toutes les conquêtes sur le plan... Je ne parle pas de conquête au sens de dominer l'autre, exploiter l'autre, mais toutes les conquêtes des continents. Quand on pense à Christophe Colomb, quand on lit ce qu'il écrivait, c'était totalement mystique. Sa démarche pour partir découvrir l'autre monde, c'était une mission. Il était lié au Saint-Esprit. En plus, il est Christophe Colomb, le Saint-Esprit. Et nous, maintenant, on a une vision totalement, même plus une vision, une conception rapetissée. Et ce qui est dramatique, en effet, vous avez compris, je récidive par rapport au livre précédent, je me dis, les religieux, eux aussi démissionnent, je généralise en disant les religieux, mais la plupart du temps, eux aussi démissionnent de leur mission spirituelle pour nous parler de problématiques existentielles et de sujets profanes dont on est abreuvé en permanence.
Vous dénoncez, alors effectivement, toujours dans la continuité de l'impatience de l'absolu, vous dénoncez les travers de notre société occidentale, on l'a bien compris, société matérialiste, soumise à la technique, à l'efficacité, au progrès,
le bonheur
de l'Internet, et puis cette société obsédée par le jeûnisme, le bien-être, le refus de la souffrance, le refus même de l'idée de la mort. L'idée du durable vous incommode au plus
haut
point.
Ah ben oui, parce que non pas sur un plan économique, parce que c'est en effet salutaire, lucide et salutaire le durable, mais de faire croire qu'on est durable, premièrement, on nous fait croire donc que l'être humain, alors que c'est le mortel et l'éphémère, les Grecs anciens ne disaient pas les êtres humains, ils disaient les éphémères. Hein, et nous, on pense qu'on est durable, c'est-à-dire que ça remplace l'éternité. À la fois, on n'est pas précaire, alors que la vie est précaire, on le voit dès qu'il y a des catastrophes naturelles. On a beau s'évertuer en disant on va prendre des précautions et puis des raisons économiques, matérielles, financières, pas du tout. Donc on est peu de choses, on est vite balayé hein, par une tornade, un ouragan et un raz-de-marée. Donc on a l'air de nous faire oublier dans cette civilisation, en fait, cette fausse civilisation postmoderne, qu'on est durable. Et en plus, on nous donne un ersatz d'éternité, alors que toutes les quêtes spirituelles ou toute la quête philosophique, c'est en effet prétendre ou tendre vers quelque chose qui dépasse infiniment l'homme. Est-ce qu'il y a une vie après cette existence-ci? Est-ce qu'il y a des réalités supérieures à notre condition mortelle? Est-ce qu'il y a un monde invisible? Est-ce que ce principe qu'on appelle l'âme, qui a été la préoccupation de toute la vie de Socrate, est-ce que cette âme va disparaître en même temps et matérielle comme le corps, ou est-ce que c'est justement elle va faire retour au principe et donc avoir une survie bienheureuse? C'est le questionnement, mais de base, j'allais dire, de tout être humain un peu conscient. Et là, c'est éradiqué.
Avant de marquer un premier temps de pause, je voudrais remercier Francette et Laurent Eke qui nous accueillent une fois de plus au premier étage de la librairie L'Âme Enchantée, qui est en train de se transformer en studio d'enregistrement occasionnel pour Radion. On remercie Francette et Laurent, que nous saluons chaleureusement. On marque, comme je le disais, un premier temps de pause au cœur de notre entretien. Je rappelle que nous recevons ce soir Jacqueline Kellen pour son dernier essai. Parlez-moi, je vous prie, du Royaume des Cieux, disponible chez vos libraires, chez François Bourin, éditeur.
Ses rives comme des fluides transpercées le brouillard, puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ses textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. Passer 10 ans à dormir en prison, c'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fond et puis de grosses galettes.
Best for me.
il fait bon écouter Wagon Livre, se cultiver et partager les réflexions de notre invité ce soir. Jacqueline Kellen est devant notre micro pour son essai « Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux » chez François Bourin, éditeur, un ouvrage qui s'interroge entre autres sur la désaffection des chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes pour la parole originelle du Christ, et un livre qui s'intéresse à la conception du bonheur humain lié à l'acquisition de la sagesse telle que la définissait la philosophie antique. Une grande sage devant nous, mais aussi une grande laïque, parce que finalement, vous oui. considérez comme une laïque, Jacqueline Kellen. Quel est votre rapport à la religion
aussi. Non,
catholique,
mais vous aussi.
Je suis un laïque.
Et voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la déformation, le dévoiement de ce terme actuel, à l'époque actuelle, et particulièrement en France. Parce que quand j'en parle avec des amis ou des connaissances que j'ai en Belgique et en Suisse, pour eux, la laïcité n'a pas du tout la même connotation un peu, comment dire, restrictive, radicale qu'elle a en France. Un laïc, je rappelle ça, le laïc, c'est celui qui n'est pas religieux. Donc, moi, je ne suis ni monial, ni pas encore cardinal, parce que, vous savez, les femmes dans la religion chrétienne ne peuvent pas prétendre à être prêtres, évêques, etc. Mais la seule chose à laquelle on peut prétendre, donc je dis ça, c'est quand même un bon tuyau pour les femmes, on peut prétendre au cardinalat, parce que c'est une dignité. Et ça, on ne le sait pas. C'est une dignité, ce n'est pas, on n'a pas besoin d'avoir reçu le sacerdoce. Donc, en tant que femme, prétendons au cardinalat, mais je ne pense pas que ça se produise un jour. Donc, je suis laïque, comme vous, si vous n'êtes ni prêtre ni moine, vous êtes laïque. Donc, le laïque, c'est le peuple profane. Et chez les laïcs, donc, nous pouvons être croyants, chrétiens, musulmans, d'obédience juive, ou nous pouvons être athées, agnostiques, etc. Bon. Or, maintenant, avec cette injonction de laïcité qui insiste, et ce qui est sain en France, sur la séparation de l'Église et de l'État, qu'il n'y ait pas de collusion et qu'il y ait une liberté de culte et de conscience, maintenant la laïcité devient l'équivalent de athée, c'est-à-dire anti-religieux. Maintenant, toutes ce qu'on appelle le laïcisme, et de fait, quand les personnes se disent laïques, moi j'en entends qu'ils sont interviewés, que ce soit une comédienne, un philosophe et autres, ils disent « oui, moi je suis laïque, je suis très très laïque ».
Vous pensez que ça fait bien d'affirmer qu'on est laïque?
Mais
ça n'a pas de sens.
C'est ridicule.
C'est une évidence.
Mais c'est ça. Si moi je dis, vous savez, je suis très très laïque, ça veut dire, pas besoin de le dire, vous y êtes. Donc pour eux, parce que c'est toute une confusion de pensée ou de non-pensée, ça veut dire que je refuse toute interrogation sur le divin, ou je nie absolument qu'il y ait une réalité autre, supérieure que celle-ci, la réalité humaine et terrestre. Bon. Donc laïque, c'est la distinction d'avec la religion. Or maintenant, c'est devenu anti-religieux. Alors, vous me questionnez par rapport à ma démarche. Moi, j'ai été...
Vous êtes une déçue un peu du christianisme. Ou en tout cas, du christianisme tel qu'il est pratiqué dans les églises. Vous le dites dans votre livre.
Moi, je ne suis pas déçue.
Vous dites parfois que la parole des prêtres n'est pas à la hauteur.
Mais je suis effarée. Je suis effarée, parce que déçue serait par rapport à moi. Moi, je continue mon chemin. Et je me fais l'écho, justement, de beaucoup de personnes qui ont cette aspiration à connaître, qui sont même très nourries des évangiles, qui vont, lorsqu'elles vont à la messe ou au culte pour les protestants, les orthodoxes ont conservé beaucoup plus la tradition originelle, ces personnes-là disent, mais ce n'est pas possible de s'embêter à ce point. Non seulement l'assemblée des fidèles ne cesse de s'agiter, ne fait jamais silence, n'est jamais recueillie, mais le prêtre lui-même, visiblement, vous savez, Eugène Drewermann, il y a longtemps, depuis, il a été excommunié, lui, ce grand théologien allemand qui avait écrit ce livre « Fonctionnaire de Dieu », ça voulait tout dire, en disant... ça ronronne et eux-mêmes n'y croient plus. Moi, j'en ai rencontré personnellement des prêtres plus ou moins âgés qui n'y croient plus. Moi presque qui leur dis, mais attendez, le Christ, c'est le Fils de Dieu ou pas? D'après, enfin, si on est chrétien, c'est quand même ce sur quoi on s'appuie. Non, ils n'y croient plus.
Si je vous cite, Jacqueline Kellen, page 63 précisément, vous écrivez « Il est navrant, par exemple, que certains prêtres et pasteurs n'aient aucune parole d'espérance et de résurrection à donner lors d'une maladie ou lors de la mort d'un proche. Et un peu plus loin, vous écrivez, là vous racontez, vous êtes entré dans une église, je crois une grande église parisienne, vous êtes effaré par la pauvreté, l'indigence des propos du prêtre face à une assemblée qui vous semble digne et être en attente. Et vous écrivez, je savais que jamais plus je n'irais demander l'aide spirituelle d'un prêtre.
Oui, ça c'est un peu radical.
Vous n'allez pas remplir les églises avec une telle position, Jacqueline.
Mais c'est terrible parce que, et je ne suis pas la seule encore une fois, je vais dans les églises, je vais m'y recueillir, et je n'y vais pas lorsqu'il y a une assemblée. Donc là aussi, moi ça me questionne, je ne dis pas que j'ai raison, mais... est-ce que quelqu'un va dans une église pour se recueillir, pour adorer, pour se mettre en présence d'une puissance supérieure, appelons ainsi Dieu, le Seigneur, enfin tous les termes qu'on peut prendre, puisque ce sont des écrans, c'est pas le nom de Dieu. Hein, bon, est-ce que c'est cela, se mettre en relation avec un principe supérieur ou un amour infini? Hein? Ou est-ce que c'est je vais faire ma routine, je vais à la messe ou au culte parce que c'est bien et puis comme ça j'aurai le paradis au bout.
Enfin, on se donne bonne conscience.
On reste dans la bêtise routinière, la dévotion. La plupart des chrétiens et en particulier les catholiques sont incultes. Et ça, je ne suis pas la première à le dire, et de grands catholiques l'ont dit bien avant moi, ils sont incultes, ils en sont restés à leur petit catéchisme. Donc moi, je me dis simplement, si on aime le chrétien et celui quand même qui suit et qui aime la parole Jésus et la personne du Christ, si on aime quelqu'un, on s'intéresse à tout ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il dit autour de lui. Bon, moi je m'intéresse, enfin c'est pas que je m'intéresse, j'ai un amour irréversible pour le Christ, je lis, je regarde, j'écoute tout ce qui le concerne. C'est un contemporain. Le Christ, c'est pas quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans et terminé, et on vit sur des miettes ou des cendres, etc. Est-ce que c'est un vivant qui vous rend vivant, ou est-ce que c'est un personnage historique qui n'a plus rien à nous dire et on ronronne là-dessus? Voilà, donc en effet... c'est horrible, je pensais même, je me suis dit la phrase que vous avez citée, est-ce que je la garde ou pas ? Parce que je trouvais ça, c'était violent, mais en même temps, c'est moi qui m'implique. Ce qui est terrible, si maintenant je vais voir un prêtre, c'est uniquement il va me parler de psychologie, de thérapie ou de paroles sans intérêt, ou trouver en effet une dimension spirituelle, eh bien, on a tous les livres à portée de nous. Il y a tous ceux qui ont écrit, il y a tous les artistes, heureusement qu'il y a tous les philosophes, qu'il y a tous les mythes et qu'il y a tous les grands spirituels, un Bernard de Clairvaux, un François d'Assise, une Thérèse d'Avila, et qui sont à notre portée, traduits en français moderne, heureusement qu'il y a cet héritage.
Mais vous citez des personnalités d'une autre époque qui, aujourd'hui, à part Jacqueline Kellen, nous dit attention, revenez un peu aux sources. Est-ce qu'il n'y aurait pas, pourtant il y a eu des religieux médiatisés, je pense à quelqu'un comme Guy Gilbert.
Oui.
Il aurait pu, à sa manière, peut-être
être appelé. Oui, ben lui, il a son...
Alors,
ne soyons pas méchantes, oui, il a son fonds de commerce, mais oui. C'est quelqu'un de très sympathique, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai entendu, je sais ce qu'il fait, mais il a son créneau, on va faire exprès de prendre un jargon, il a son créneau, il a son fonds de commerce, donc il fait beaucoup de bien avec, en effet, ses loupards, etc. Donc c'est une façon, en effet, de faire passer la parole de Dieu.
Mais l'erreur de l'Église catholique, ou disons, l'Église catholique, c'est peut-être d'avoir cru rajeunir son discours en s'éloignant en fait de l'origine de la parole du Christ. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre.
Et comme vous le dites très bien, à travers siècles, il y a eu toujours, et ça c'est très intéressant parce que surtout au XIe, XIIe siècle, c'était les laïcs au sens exact et premier du terme. Ce sont des mouvements laïcs, donc que ce soit les béguines, ça c'est un peu plus tardif, c'est XIIe, XIIIe, les spirituels, tous les mouvements, les vaudois, tous les grands mouvements de rénovation du christianisme au sens simplicité, pauvreté au sens, attention, à la fausse richesse, à l'artifice, revenons à la pureté originelle du message du Christ, ce sont des laïcs qui ont porté ça. Et bien sûr, il y a eu la réponse non pas du berger à la bergère, mais de l'Église officielle à l'égard des laïcs qui n'avaient pas le droit de prêcher et d'annoncer la parole de Dieu. Et la plupart ont été condamnés, sinon, ou persécutés. Hein, ils ont fini sur le bûcher. Voilà. Alors, de nos jours, c'est amusant, tristement amusant, puisque de nos jours, au contraire, il y a une revendication de laïcité pour dire justement non, ne parlons pas de Dieu ni de toutes ces choses-là, c'est la sphère privée. Mais en effet, la dimension spirituelle transcendante du message du Christ est quasiment oubliée au profit d'un Jésus copain, un Jésus révolutionnaire. Enfin, on rabaisse cette immense figure, hein, disons figure, pour ne pas dire fils de Dieu selon le christianisme. Enfin, si on est chrétien, on croit absolument que c'est l'incarnation de Dieu. Bon. Donc, ça ne peut pas être le copain, ça ne peut pas être un ami sympa, enfin, tout ce jargon que j'entends encore. Et le message qu'il transmet, ce n'est pas simplement il faut faire la révolution, il faut que le monde aille mieux, il faut s'occuper des pauvres et des prisonniers. Ça fait partie, il y a un programme moral, si on peut dire, mais c'est un programme absolument transcendant, c'est penser au royaume des cieux, et tout le reste sera de surcroît. Donc, parlez-moi du royaume des cieux, c'est ça l'important.
Et dans la presse, quand vous lisez Marie, patronne des indignés, ou alors Rachel la résiliente, ça vous met en rogne.
Eh oui. Alors, je n'ai rien inventé. Ça, tout ce que je n'ai rien inventé. Je le vois dans la presse catholique et je l'entends dans les radios chrétiennes, tout ce jargon béto pour, comme vous dites très bien, on croit être dans l'air du temps, croit rajeunir, alors que l'esprit, au sens de l'Esprit Saint qui souffle, il est toujours vivant, il n'a pas besoin d'être rajeuni.
Quand on lui parle de foi, elle se dit vaillante. C'est Jacqueline Kellen qui est ce soir devant notre micro. Une Jacqueline Kellen toujours très souriante,
radieuse. Mais vous aussi, mais vous aussi.
Écoutez, tant mieux. Nous sommes tous les deux, alors peut-être des ravis. Nous sommes des ravis. On va marquer, si vous le voulez bien, une nouvelle petite pause musicale. Et on se retrouve donc pour l'essai de Jacqueline Kellen disponible chez François Bourin, éditeur, et qui a pour titre « Parlez-moi, je vous prie ». Du royaume des cieux. Alors, auditrices et auditeurs, regardez le ciel, arrêtez de regarder le bout de vos chaussures, regardez le ciel et le ciel vous regardera. Bonne soirée sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour Wagon Livre, un numéro enregistré à la librairie L'Âme Enchantée à Vézelay en juillet dernier. On remercie une fois de plus Françoise et Laurent Equet pour leur accueil. Dans notre société fermée à toute beauté, engluée dans ses problèmes, inapte à la contemplation, eh bien, nous nous réjouissons ce soir de donner la parole à une laïque qui a foi en la vie éternelle et qui ne veut pas démériter de l'image de Dieu. Jacqueline Kellen, qui a échappé au filet d'Internet, mais ça on le savait, des réseaux sociaux, est en notre compagnie pour partager les réflexions que vous retrouverez dans son dernier écrit en librairie chez tous les libraires qui ne l'ont pas censuré, j'espère, et qui a pour titre « Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux ». Vous mettez à mal le clergé, on l'a dit, vous écrivez « Des clercs se fourvoient et trompent leurs ouailles, ils négligent ou trahissent la parole qui leur est confiée », ça c'est au cœur de votre ouvrage. Le mariage des prêtres, je l'ai appris, en vous lisant, Jacqueline Kellen, le mariage des prêtres a été autorisé jusqu'au XIIe siècle. Et aujourd'hui, vous dites que finalement, c'est navrant de voir des prêtres qui écrivent des livres, eux aussi, qui essaient d'écrire des livres pour donner des conseils, et notamment sur la vie de couple, la vie conjugale ou sur la sexualité. Et ça, vous trouvez ça complètement aberrant.
Mais c'est vraiment rigolard. C'est rigolard, je prends ce terme-là. Je rôde toujours dans des grandes librairies parisiennes spécialistes ou spécialisées en religion, spiritualité, etc. Et vraiment, je souris ou j'éclate de rire.
À la procure, et vous accueille encore à la procure ?
Ah oui, oui, même bien, même. Oui, même bien. Oui. Donc vous citez le terme parce que c'était facile à trouver. Et je vois en effet une prolifération, bien sûr, de livres écrits par des ecclésiastiques, plus ou moins connus, qui posent toujours avantageusement couverture, là aussi. Je rigole, parce que maintenant, il faut absolument... Alors que si on pose en couverture, c'est parce qu'on fait commerce de son apparence. Donc quelqu'un de média, un homme politique, pourquoi pas, posant en couverture, une comédienne, un mannequin. Bon, mais là, tous, connus ou moins connus, posent en couverture avantageusement, et ils racontent leur vie. Alors vous avez non seulement ceux qui disent « je n'invente rien », l'évêque qui dit « pourquoi je crois encore en Dieu », au contraire, le pasteur qui dit « je suis pasteur » mais athée, bon alors c'est quand même incroyable, et surtout donc les dernières parutions, ce sont les prêtres, donc prêtres ou évêques, etc., qui parlent très doctement, avec conseils pratiques à l'appui, de comment réussir sa vie conjugale,
comment
les délices...
Mieux, et... guérir les blessures de l'enfant...
Oui, alors ça c'est le côté thérapeutique, ça marche
aimer,
à tous les coups, mais
c'est,
ça marche, ça marche, et là, je ne vais pas citer le nom, mais c'est quelqu'un qui est très connu, qui, enfin il n'est pas français, mais un moine... On se demande quand il a le temps de prier, mais il publie 10 livres par an sur, comment placer son argent en bourse tout en étant spirituel.
Moi, vous j'attends. Êtes sévère avec ce clergé, Jacqueline.
Oui.
On entend rarement...
Mais oui, pas tous, mais non, mais... Ils dévoient complètement, eux, qu'ils jouent la mondanité, qu'ils cherchent le succès en ce monde, c'est malheureusement une passion humaine, l'ambition, les richesses, etc. Mais... diable, ils sont justement moines ou prêtres. Donc c'est eux qui doivent nous relier, nous rattacher à une autre dimension. Donc ils se fourvoient, eux, dans le temporel, mais en plus qu'ils se transforment en pseudo-thérapeutes, conseils pratiques, courriers du cœur et conseillers conjugaux, etc. Moi, j'attends maintenant le Kama Sutra écrit par l'évêque ou le prêtre ou le rabbin untel. Arrêtons. Enfin non, je dis là, rabbin, j'ai tort, parce qu'un rabbin est marié. Un prêtre orthodoxe est marié. Mais un prêtre catholique, un moines ne sont pas censés connaître de près ou de loin l'amour humain. Pour ma part, j'ai été élevée dans la religion catholique parce que c'était synonyme de bonne éducation, de moralité, et je ne m'en plains pas. Simplement, moi j'avais une foi chevillée au corps, alors ça s'est manifesté dans une foi chrétienne, enfin du moins une foi en la personne de la parole du Christ, et j'ai vraiment, je suis allée à la messe très régulièrement pendant plusieurs années, de nombreuses années. Mais surtout, moi, ma foi dépasse en effet un besoin de convertir qui que ce soit à la seule vraie religion, à la bonne philosophie, etc., au vrai parti. La question n'est pas là. J'ai une foi immense, démesurée en la liberté de l'être humain et en sa grandeur possible. Et là, qu'il s'agisse des mythes, de l'Occident, des grands récits, que ce soit les travaux d'Hercule, d'Héraclès, que ce soit la quête de la toison d'or, que ce soit l'histoire d'Ulysse à travers l'Iliade et l'Odyssée, tous et à travers toute la philosophie grecque, les présocratiques, Socrate, Platon et les suivants. Mais bien sûr, dès le départ, donc là c'est 6000 ans, il y a 6000 ans, qu'il s'agisse donc des mythes, des philosophies, de la philosophie grecque, gréco-romaine et philosophie antique et des spiritualités, donc au moins les trois grandes religions révélées, les trois monothéismes que nous connaissons en Occident, eh bien, tous parlent de la noblesse possible de l'être humain et du dépassement possible de l'être humain. Donc c'est au nom de cela que je m'insurge en disant, non pas allez voir du côté de telle religion, convertissez-vous à telle chose, ou ne croyez plus en rien, c'est défendez âprement ce sentiment de grandeur qui me semble caractériser l'être humain. Si on a, moi j'ai foi en l'homme, c'est pour ça que je désespère de l'homme.
Et vous avez mal à Dieu, comme
mais
vous
oui,
dites.
Mais ah oui, je ne sais pas
mal
si je dis ça.
Mais
oui,
si vous l'écrivez.
Oui, parce que l'être humain, c'est Berdiaev qui dit ça merveilleusement, ce grand penseur russe qui a beaucoup vécu en France, qui est certainement qui est passé à Vézelay, parce que c'était aussi un grand ami de Marie-Madeleine David, qui a souvent qui est venu ici. Eh bien, Berdiaev disait « L'homme est inhumain, Dieu est humain ». La seule façon que l'homme devienne humain, son immense, dans le sens plein, de l'humanité, de cette ampleur et de cette grandeur, la seule façon, en effet, que l'être devienne humain, l'homme devienne humain, c'est de se relier justement à son image divine. Et moi, je me bats pour ça. Alors après, ça peut s'incarner dans une religion particulière, dans une philosophie. Moi, je suis cavalier seul. Je désespère toujours qu'il n'y ait pas de féminin à cela. Je suis cavalier seul au féminin. Et non pas parce que je ne cherche pas à m'engager ou je refuse telle et telle chose. Mais toutes les voies, de toute façon, sont là pour l'accomplissement de l'être humain. Alors chacun, en effet, selon ses affinités, va regarder plus du côté des mythes, des traditions, ou des traditions hermétiques, d'une spiritualité. Mais moi, j'ai horreur de dire « voilà ce qui est bon pour vous ». Mais surtout, il s'agit de réveiller l'être humain en disant « vous êtes infiniment plus grand que vous ne l'imaginez et qu'on veut qu'on vous le dit ».
Vous dites que la mondialisation a tendance à mettre un peu les religions ou les philosophies sur le marché, un peu comme des marchandises.
Et vous, tout à fait, oui.
Vous dites que le bouddhisme a connu beaucoup de curiosité en France, un regain d'intérêt.
C'est mode.
Le zen,
bien sûr.
Le bouddhisme.
Mais bien sûr.
Et vous pensez que, déjà, le bouddhisme, c'est une philosophie, ce n'est pas une religion.
Voilà. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire le bouddhisme n'est pas bien, mais le christianisme est mieux, ce n'est pas cela. Mais toute cette toute cette prolifération, là, il y a une émergence de bouddhistes, tout le monde devenait bouddhiste autour de moi, ou tout le monde se dit bouddhiste, alors le comédien, l'homme politique, la secrétaire, enfin tout le monde est bouddhiste, sans savoir ce que ça veut dire. Hein, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'être chrétien, moi j'ai interviewé, j'ai interrogé plutôt comme ça, des relations, des connaissances qui se disent chrétiennes ou catholiques pratiquantes, et je dis qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? Ça serait la bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? Ben, être chrétien, c'est déjà croire en la Trinité. Il y a quand même un minimum vital si on se dit chrétien. On ne se dit pas chrétien parce que j'ai reçu une éducation et puis je vais à l'église de temps en temps. Donc on ne sait pas ce que ça signifie. Et être bouddhiste, en effet, c'est aussi tout un corpus de textes, outre le culte et les pratiques, la pratique. Et le bouddhisme n'a jamais été une religion, c'est une philosophie sans Dieu. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, on peut s'en accommoder ou adhérer, mais moi je m'emporte contre ceux qui disent « je suis bouddhiste et chrétien ». C'est absolument inconciliable. La religion chrétienne, prenons juste celle-ci, mais on peut dire la même chose de l'islam et bien sûr du judaïsme, la religion chrétienne comme, en tant que monothéisme et religion révélée, adhère, atteste, plus exactement, c'est ça la foi, atteste de réalités supérieures invisibles, d'une présence qu'on appelle Dieu, qui est infiniment au-dessus de l'être humain, bon, et de la réalité terrestre. C'est ça, c'est attester de réalités divines invisibles. Voilà ce qu'est la foi. Donc après, ça transite ou ça s'incarne dans le personnage du Christ, dit fils de Dieu pour les chrétiens. Pour l'islam, eux, la transcendance de Dieu est tellement absolue qu'il n'y a pas ni incarnation, ni clergé d'ailleurs. Et quant aux juifs, transcendance aussi absolue, mais ils ne croient pas, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Messie. Voilà. Donc, mais ces trois religions attestent d'une réalité absolue. Le bouddhisme, c'est très différent. C'est comment, en tant qu'être humain, la réalité, en tant qu'être humain, la souffrance, la vieillesse, la maladie et la mort, comment échapper à ça ? Et la réponse, c'est dans le non-désir, la non-souffrance et la méditation, c'est pour échapper à la roue des réincarnations. Mais c'est une philosophie sans Dieu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un besoin de croire, certainement, en chaque être humain, un besoin de révérer ou d'adorer, pourquoi pas, si bien que le Bouddha, alors qu'il n'était pas, il ne se faisait pas passer pour Dieu, le bouddhisme est devenu une religion avec ses croyances, ses rites, son clergé, etc., au fur et à mesure des siècles. Alors qu'au départ, c'est une philosophie sans Dieu.
Vous l'aurez donc bien compris, la mort de Dieu ne grandit pas l'être humain. Nous poursuivrons cet échange avec notre invité dans une poignée de minutes. On vous offre un peu de détente musicale avant de retrouver l'auteur de « Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux », un essai disponible aux éditions François Bourin sous la plume de Jacqueline Kellen, qui déplore, vous l'avez bien compris, que notre société néglige la vie spirituelle. Une Jacqueline Kellen qui regrette profondément que le message transcendant du Christ ait été dénaturé et affadi. Dès lors, finalement, que faire pour que le christianisme, dans un monde matérialiste, affirme sa verticalité et renoue avec sa dimension mystique ? Eh bien, quelques éléments de réponse, mais après la pause musicale.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas.
Dernière partie de notre émission avec Jacqueline Kellen pour Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux. Alors, Jacqueline Kellen, quelles sont les propositions ? Parce que vous en faites dans
bien
votre
sûr.
Livre. C'est ça qui est aussi
bien
très, très bien.
Si c'est une entreprise de démolition, ce n'est pas intéressant
voilà.
de critiquer.
Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez cette modestie. Vous écrivez, page 91, « Qui suis-je donc pour critiquer et blâmer le comportement actuel des fidèles chrétiens et même de leur clergé ?» Et vous apportez tout de même quelques propositions que vous qualifiez de pressantes.
Oui, oui, oui. Même alors, si nous avons l'éternité devant nous, il y a quand même de l'urgence à se réveiller. Oui.
Finalement,
et à se mettre en route.
Le retour au texte, un petit peu à la manière des humanistes, le retour
exactement.
Au texte, quoi. Sorte d'innutrition.
Moi, je
des
le
textes
dis toujours.
Fondateurs.
Cette époque, il n'y a pas que la critique à la critiquer, à dire qu'elle est lamentable ou triste et matérialiste. Nous avons une chance folle, et là, nous sommes entourés de livres, même si les libraires sont aussi mises à mal par des grosses entreprises économiques et effarantes. Mais nous avons actuellement à notre disposition, dans un français moderne, tous les grands écrits de l'humanité, alors qu'il s'agisse, je ne parle pas simplement d'histoire, etc., tout ce qui concerne la philosophie, tout ce qui concerne les religions, les spiritualités, sont à notre disposition en livres, en français moderne. Ce à quoi n'avaient pas accès, y compris les gens du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc, c'est exceptionnel. Donc, nourrissons-nous de ça. Moi, je suis, encore une fois, étonnée que très peu de chrétiens aient une culture chrétienne. Si, moi, ça m'est arrivé, y compris dans une église, c'était pour une bénédiction nuptiale, donc moi, j'avais préparé des textes, et je lisais un texte, donc c'était pour une bénédiction nuptiale, j'avais choisi un extrait d'un des sermons sur le cantique des cantiques de Saint Bernard. Or Saint Bernard, vous le savez, il a prononcé presque 100, enfin du moins 80 sermons sur le cantique des cantiques, et quand il est mort, eh bien il n'avait même pas commenté la deuxième partie. Bon. Et ce sont des textes magnifiques et fervents, et au lieu de lire brutalement tout de suite le texte, je dis simplement ce que je viens de vous dire à l'Assemblée, mais modestement, disant, voilà, Saint Bernard de Clairvaux, je le présente rapidement, etc. À la fin de la cérémonie, le prêtre est venu me voir en disant, ah, vous connaissez bien, mais vous avez fait des études de théologie, puis dans l'Assemblée, vous êtes théologienne ? Je dis, non, mais j'ai la prétention d'être chrétienne, et donc si on est chrétien, enfin Bernard de Clairvaux, à un moment on lit François d'Assise, on tombe quand même sur quelques écrits de Jean de la Croix, etc., etc. Donc, premièrement, connaissance, étudier, et en ce sens, la tradition juive va nous, vraiment, devrait nous montrer le chemin. Sans arrêt, prier, c'est aussi étudier. Moi, quand je lis, quand j'écris, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est très spirituel. C'est un travail, un exercice spirituel.
Et puis, vous citez un grand nombre de penseurs chrétiens. Vous permettez, Jacqueline Kellen, parce que j'avoue, on en connaît quelques-uns, mais beaucoup sont méconnus ou inconnus, chacun sa culture.
Tout à fait.
Mais je le dis aux auditrices et auditeurs, vous mentionnez Frédéric Ozanam, bon, Léon Blois, Charles Péguy, Georges Bernanos, Nicolas Berdiaev, dont vous avez parlé précédemment.
Je cite exprès, ce sont des laïcs, justement. Ce ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des religieux. C'est ça qui est passionnant. Ozanam, c'est un grand laïc, il a beaucoup fait, justement, c'est lui qui a mis en route les conférences de Saint-Vincent de Paul. C'était un homme marié, donc c'est ça qui est intéressant. Berdiaev aussi, marié, père de famille, vivant dans le monde, etc.
Marie-Madeleine
les laïcs.
David,
Marie-Madeleine, que j'ai
Claude
bien connue.
Claude Cressmontant, Jacques Ellul, Olivier Clément.
Protestant, Olivier Clément, orthodoxe.
Que ceux qui vécurent en France.
Tout à fait, ce sont des laïcs, donc dans le monde, et qui ont une démarche de questionnement, de recherche, de connaissance spirituelle, et qui apparemment nourrissent beaucoup plus les âmes et les esprits de nos jours que bien des prêtres et gens du clergé qui nous parlent de, en effet, comment réussir son couple et autre chose pratique de la vie de tous les jours.
Alors vous dites aussi qu'il faudrait qu'on arrête de... ou sanctionner les religieux, les prêtres, les moines ou les cardinaux qui, lorsqu'ils se montrent particulièrement... Je vais lire carrément la phrase.
Oui,
c'est page
plus.
106, Jacqueline Kellen. Dès qu'un prêtre, un moine ou un cardinal se montre particulièrement intelligent, cultivé et porté à la mystique, autant dire qu'il fait preuve d'un esprit libre et ouvert, il se trouve rabroué, sommé de se taire, voire excommunié.
Tout à fait. Oui, il y a plusieurs grands noms comme ça. Moi, j'avais lu, il y a des textes magnifiques, il n'est plus de ce monde. Anthony de Mello, par exemple, jésuite indien. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, ce livre, Quand la conscience s'éveille, en particulier, c'est extraordinaire. Ce livre, il a tout compris. Et lui-même est anticlérical, si on peut dire. Et après, en parlant de lui, on m'a dit, mais vous savez qu'il a eu maille à partir avec le Vatican, et je ne sais pas s'il a été tout juste excommunié. Je parlais de Reverman, mais il y en a beaucoup. Beaucoup d'autres, dès qu'ils sont libres. Teilhard de Chardin, qui a été sanctionné, donc lui, il a quand même été obéissant ou docile, mais pendant toute la durée de son existence, il a été empêché de publier ses recherches. C'est quand même incroyable, parce que ça ne convenait pas au Vatican. Donc c'est triste que la pensée officielle, je dis bien la pensée officielle religieuse, enfin catholique, du catholicisme romain, finalement se montre, empêche la liberté de l'homme. Parce que quand je dis que ce qui m'importe, ce que vous avez rappelé, c'est l'immense liberté de l'homme, de fait, qu'est-ce que le spirituel, qu'est-ce que l'esprit, le climat de l'esprit, alors qu'on peut l'appeler esprit saint ou esprit divin, le climat de l'esprit, c'est l'immense liberté. C'est ça. Si quelqu'un est spirituel, il est immensément libre et joyeux. Et s'il est immensément libre, c'est évident qu'il est relié à l'esprit.
Parmi les propositions pressantes...
Alors, connaissance, étude.
Oui. Voilà. L'intériorité,
bien sûr, l'asquète silence. Mystique. Mais oui, intériorité, silence. Et c'est là que je dis, non pas tant pis pour vous, le clergé, mais si vous, vous êtes blasé, si vous n'y croyez plus, si vous êtes lassé, ou si vous trahissez le message transcendant du Christ, eh bien, les laïcs, comme à travers tous les siècles, ce sont aux laïcs de reprendre le flambeau.
Ah, j'ai peur que ça ne plaise pas beaucoup aux autorités ecclésiastiques.
Mais Jésus n'a pas plu non plus aux autorités ecclésiastiques, aux grands prêtres, et il a été condamné pour ça.
Mais est-ce à dire que l'Église ou les cadres de l'Église auraient besoin de rajeunir tout en...
Non, ce que je dis, ce qu'on oublie, c'est que le clergé n'a pas le monopole de Dieu. Dieu n'est pas une chasse gardée, donc ça c'est peut-être un propos rebelle, mais je ne suis pas la seule et la première à le dire, c'est une réalité et une vérité. Dieu n'est pas le monopole du clergé, ni même d'une religion, puisque Dieu est le questionnement de tout être humain conscient. Dieu est le questionnement de tous les grands mythes, les dieux, le monde divin. Dieu est le questionnement de toute la philosophie grecque, antique. Donc la divinité n'est pas le monopole des religieux. Donc si eux s'en désintéressent, la question de Dieu est ce qui me fait vivre et avancer. Je ne dis pas la réponse en disant « voilà, Dieu, c'est ça, il faut croire en ça », mais le questionnement sur l'au-delà, sur le surnaturel, qui était complètement évacué par la religion catholique, ils ne croient plus aux anges, au monde invisible, aux miracles, ce sont les derniers à y croire. Des personnes, ça existe aussi, les démons, ça existe, les envoûtements, etc., ça existe. Maintenant, il y a un prêtre exorciste, et encore chez les orthodoxes, mais ils n'y croient plus. Ils vous recommandent plutôt d'aller faire une psychanalyse freudienne. Donc, ils ne croient plus au mal, le péché, je ne sais pas. Ils ne croient plus au jugement dernier. Il y a eu un livre qui a paru, non, le jugement dernier, la pesée des âmes, tout ça, c'est bondieuserie et dépassé. Donc, s'ils n'adhèrent plus à ce monde spirituel qui est justement le royaume des cieux, les laïcs qui sont encore habités par cette vaillance et cette ferveur, c'est à eux de reprendre le flambeau. Voilà ce que je dis. Dieu n'est pas le monopole du clergé et eux, ils en sont fait une chasse gardée et maintenant ils l'emprisonnent. Non, Dieu est à tout le monde. C'est le questionnement, encore une fois, qui fait la grandeur de l'être humain. Le questionnement sur Dieu, pour moi, fait la grandeur de l'être humain.
Je vous cite encore Jacqueline Kellen. Ce sont les laïcs chrétiens qui représentent la jeunesse de l'Église. Et c'est vrai que vous argumentez en disant finalement qu'un chrétien laïc est bien plus apte qu'un religieux célibataire à aborder des sujets tels que l'amour humain, le couple, la famille, l'éducation des enfants
bien
ou
sûr,
le divorce.
Bien sûr, il est beaucoup plus libre parce que là, il n'a pas, alors que même un prêtre qui a envie de faire plein de choses, il a quand même toute une hiérarchie. Un prêtre ne peut pas faire venir n'importe qui dans son église, il ne peut pas dire n'importe quoi. Il est tenu par justement le serment, entre autres, d'obéissance.
Mais vous, quelque part implicitement, vous reposez la question du célibat des prêtres.
Ah, mais bien sûr, non, mais ça, c'est un épiphénomène. Mais oui, et on l'explique très bien sur un plan historique et social. Mais là, quand on pense même le pape actuel qui ne va pas remettre en question cette chose-là, c'est uniquement, c'est pas des traditions, c'est des habitudes. Bon, et ça repose pour moi, mais ça c'est encore une autre vaste question, ça repose sur une méfiance à l'égard de la femme, une méfiance à l'égard de l'amour humain. Donc une tradition d'ascèse où si on se consacre à Dieu, on ne peut pas frayer avec les autres humains, on ne peut pas aimer un homme ou une femme si on se consacre à Dieu.
Pas Jésus qui a un problème avec les femmes, mais c'est bien le clergé.
Exactement.
Eh bien, parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux. On en a déjà beaucoup parlé ce soir avec Jacqueline Kellen, qui était notre invitée pour son deuxième passage à Wagon Livre. C'est toujours un plaisir, Jacqueline,
de
vous accueillir.
Aussi. Merci de votre accueil.
Un prochain livre en préparation, déjà?
Oui, je commence. Donc, je vais y passer tout l'été, l'automne, et puis je pense qu'il paraîtra en 2014. Mais je ne dis rien tant que je n'ai pas terminé.
Donc, un prochain passage dans Wagon Livre en 2014,
bien,
si l'émission existe toujours.
Oui, mais bien sûr.
Parlez-moi, je vous prie, du royaume des cieux, donc pour celles et ceux qui veulent remettre du spirituel, qui veulent remettre de l'absolu dans leur vie. Je crois qu'on peut tous quand même remettre de l'absolu dans nos vies.
Commencer à escalader l'échelle là, qui est sur la couverture.
Qui se trouve sur la l'échelle de Jacob, qui se trouve effectivement sur la couverture.
Où il y a, c'est un peu humoristique, parce qu'il y a le Dieu le Père, là, bien anthropomorphe, qui bénit les petits anges qui arrivent. Mais c'est un très beau tableau du XIVe siècle.
Et l'ouvrage est disponible chez vos libraires, notamment à L'Âme Enchantée, également à L'Or des Étoiles à Vézelay, ici, aux éditions François Bourin. On remercie Françoise et Laurent de nous avoir accueillis. Merci à vous, chère Jacqueline.
Merci de tout
cœur. Retour à Paris et à très bientôt
et
à Vézelay.
Et longue vie à Vaconlivre.
Merci Jacqueline Kellen. Dans quelques minutes, le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, de la librairie L'Autre Monde. Mais L'Autre Monde, c'est à Avalon. Vous voyez, c'est une librairie qui a choisi un nom qui fait référence aussi aux légendes arthuriennes. Ça doit vous plaire, ça?
Et oui.
Bon, alors tant mieux. Bonsoir Jacqueline Kellen.
Bonsoir.
Je l'avais annoncé il y a quelques secondes, bien évidemment, avant de nous séparer, nous retrouvons le traditionnel, l'incontournable coup de cœur de notre libraire tout aussi incontournable. Notre libraire partenaire, c'est la librairie L'Autre Monde à Avalon, représentée, incarnée par Evelyne Levallois, que nous saluons et que nous accueillons à bord de Wagonlivre. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, évidemment, rentrée littéraire, la libraire que tu es n'a que l'embarras du choix. Alors, il faut bien en retenir quelques-uns. Et ta sélection est faite. Ce soir, tu nous présentes un roman des éditions Actes Sud.
Oui, ça s'appelle Kinderzimmer, d'une certaine Valentine Gobi. Il s'agit d'un roman assez court, de 100-220 pages. Ça commence, on est en 1944, au camp de Ravensbrück. Mila vient d'arriver. Elle est résistante, c'est pour ça qu'elle a été déportée. Quand elle arrive, elle apprend qu'elle est enceinte lors de la visite médicale. Et une des détenues qui aide les médecins SS à faire le tri entre les arrivantes lui dit qu'il vaut mieux taire la grossesse si elle ne veut pas de soucis. Et elle, ça l'arrange parce qu'elle n'a aucune envie d'être enceinte. Il y a un côté déni de grossesse. Il y a un côté aussi instinct de survie, évidemment. Elle n'a pas très envie d'être enceinte parce qu'elle sent bien que ça va être un endroit de mort, parce qu'elle est enceinte un peu par hasard, on va dire ça comme ça. C'était pas une volonté. Donc, elle préfère oublier tout ça et se concentrer sur ce qu'elle vit. Mila va peu à peu comprendre ce qu'est le camp et ce que ça implique, en même temps qu'elle va comprendre ce qui lui arrive à elle, c'est-à-dire la grossesse. Et donc, dans cet endroit de mort, elle va aussi découvrir qu'il existe une maternité, ce qu'on appelle la Kinderzimmer. C'est là le comble de l'absurdité pour elle, donner la vie à Ravensbrück. Mais cette vie nouvelle va aussi redonner goût à la vie à toutes les femmes du bloc dans lequel elle habite, et qui vont d'abord tenter de subvenir aux besoins de la mère en la nourrissant à leurs dépens, puis de la maternité en volant par exemple du charbon, des choses comme ça. Et dans cette maternité, on va aussi découvrir la solidarité des mères, entre celles qui ont du lait et celles qui n'en ont pas, pour qu'au moins un seul enfant survive. Même si c'est pas le sien, tant pis, la vie avant tout. Et sans pathos, un récit sur les camps de la mort, et pour finir, un roman vraiment optimiste. C'est pas du tout un livre triste, il y a des moments pas faciles, évidemment, mais quelque part, ça fait un peu penser au livre de Geneviève de Gaulle, Antonioze, La traversée de la nuit, où elle racontait ses petits bonheurs en captivité, et c'est à ça qu'on comprenait les grands malheurs. Et ben, il y a ce côté assez optimiste aussi chez Valentine Gobi. Pour moi, c'est une des grandes réussites de cette rentrée littéraire, pour une jeune auteure, mais qui est déjà aguerrie par une grande bibliographie jeunesse, et qui là se frotte à son deux ou troisième roman adulte.
Donc c'est Kinderzimmer de Valentine Gobi et c'est aux éditions Actes Sud et c'est le coup de cœur de notre libraire partenaire. Merci Evelyne, on te retrouve la semaine prochaine.
Oui, merci.
Alors quelques informations, tu restes en notre compagnie, quelques informations avant de nous séparer. Tu en es hautement informé puisque les 28 et 29 septembre prochains, c'est la 16e édition de...
Livre en vigne.
Livre en vigne, effectivement, la première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Une fête du livre présidée cette année par... David Fuenquinos. Alors, de très nombreux éditeurs et auteurs seront présents, de dimension nationale mais aussi régionale. Alors, je commence, j'en donne quelques-uns. Franz Olivier Gisbert, Bernard Pivot, Didier Van Kovelaar, Denis Tillinac, Jean-Pierre Soisson, Jean-Robert Pitt, qui d'ailleurs est le président d'honneur à vie de Livre en Vigne. Il y aura Jacques Pradel, Pierre Péjus, le comédien Francis Perrin, Jean-Pierre Coff est annoncé, Bernard Lecomte, Jean-Paul Kaufmann. Alors,
J'oublie pas les dames, hein, bien sûr, il y a des femmes auteurs, Valérie Gans, Cécilia Duterre, Delphine Bertolon, Michel Barrière, Ingrid Astier, Laura Alcoba, et je ne les cite pas toutes et tous. En tout cas, on peut retrouver la liste intégrale des auteurs participant à Livre en Vigne sur le site internet www.livresenvigne.com. Et puis, tu sais aussi, Evelyne, que cette année 2013 est non seulement centenaire de la naissance d'Albert Camus, mais c'est aussi le centenaire de la naissance de Max-Paul Fouché. Et à Clamecy, à la médiathèque, il y a une exposition pour le centenaire de Max-Paul Fouché, qui se tient donc à la médiathèque François Mitterrand de Clamecy jusqu'au 26 septembre prochain. Et je mentionne également une conférence qui sera donnée par la fille unique de Max-Paul Fouché, Marianne, que nous connaissons bien. Conférence qui aura lieu donc à la médiathèque de Clamecy le mercredi 25 septembre prochain à 14h30. Et puis on n'oublie pas le 15 septembre de 9h à 19h sur les quais de Clamecy, à la halte nautique précisément, c'est Livre Escale. Et puis toujours dans le cadre du centenaire de la naissance de Max-Paul Fouché, une conférence qui se tiendra à la médiathèque de Clamecy le samedi 28 septembre à 15h, conférence de Abdelkader Djemaï, qui aura pour thème « Quand la télévision parlait des livres, Max-Paul Fouché et lecture pour tous ». En ce qui nous concerne, Wagon Livre revient sur les ondes de Radio mercredi prochain à partir de 21h, mercredi 18 septembre. On vous proposera un extrait d'une conférence prononcée par Jean Lacoste en août dernier. Jean Lacoste qui a mis à jour, annoté et fait publier le journal de Vézelay de Romain Rolland. Et cette conférence avait pour but de montrer à quoi ressemblait l'occupation à Vézelay vue par ce grand prix Nobel de littérature qu'est Romain Rolland. C'est donc mercredi prochain à 21h sur Radion. Merci Evelyne, bonne soirée. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre fidèlement. Excellente fin de soirée sur Radion et à mercredi prochain. Au revoir.